Je suis pas, ne serai jamais bouddhiste. Ça ne m'intéresse pas de changer de religion. Mais les idées de la philosophie bouddhiste, sur le plan méditatif, pour moi, ouvrent souvent des portes. Et certaines idées, plus que d'autres, naturellement. Donc, plutôt que de faire vraiment une présentation générale de la philosophie, j'avais juste envie de m'arrêter sur les aspects qui me paraissent intéressants pour nous, peut-être parce qu'ils ne correspondent pas forcément à des choses qui sont présentes dans notre manière d'envisager le bien-être et le mal-être tel qu'on le fait dans un cadre psychologique ou psychothérapeutique, comme on le fait tous, c'est un peu le cadre de pensée qu'on a pour notre développement personnel. Alors, je vais donc quand même présenter un peu dans les grandes lignes comment marche cette philosophie bouddhiste, mais je vais essayer de m'arrêter un peu plus aux éléments qui sont pour moi particulièrement intéressants. Alors, vous vous souvenez probablement que le Siddhartha Gautama, plus connu sous le nom de Sen du Bouddha par la suite, était un prince qui s'est lassé des plaisirs de palais, qui a fait ce que les hippies faisaient à l'époque, c'est-à-dire qu'il s'est rasé le crâne. On voit qu'il y a... Au niveau de la mode capillaire, les choses ont pas mal changé. Les hippies des années 70 faisaient l'inverse. Qui est parti essayer de trouver davantage de sens et de bonheur à sa vie, qui a essayé des techniques d'ascèse extrême, donc privation de nourriture, méditation très intense, mais qui n'y a pas trouvé ce qu'il cherchait, hein, et qui a fini par formuler cette espèce de voie du milieu qui est un épanouissement ni dans la recherche de ce qu'il connaissait dans sa vie princière, c'est-à-dire les plaisirs liés à l'argent, au sens, au pouvoir, ni la mortification que les ascètes prônaient, qui ne lui paraissait pas non plus satisfaisante. Et il a énoncé sa méthode d'une manière qui résonne encore beaucoup pour nous, parce qu'elle est complètement médicale, une formulation qui correspond tout à fait à un modèle médical. Il y a le symptôme, qu'il a appelé dans les quatre vérités bouddhistes la vérité de la... On traduit ça par la souffrance, de l'existence de cette souffrance. Le mot pali, c'est dukkha, peut-être pour mieux comprendre ce que c'est que souffrance. Et dukkha, le duk, le doux, c'est la même racine que le dis, de disharmonie, de discorde, dysfonction, exactement. Quelque chose qui cloche, qui ne fonctionne pas bien. Et puis K, il semble que ça renvoie au mouvement de la roue d'un char. Donc Sukha, c'est le mouvement de la roue du char qui tourne bien, parce que Su, c'est la racine pour ce qui va bien. Et Dukkha, c'est quand ça tourne pas rond. Donc on traduit par souffrance, mais c'est un mot très lourd. On pourrait plutôt traduire ça par le stress, l'insatisfaction. Dans l'existence. Donc, la première vérité, c'est ce constat qu'il y a de l'insatisfaction dans l'existence. Et pour aller dans le détail, la naissance, et au moment de la naissance, source de souffrance, vieillir est dukkha, la maladie est dukkha, la mort est dukkha, le chagrin, la douleur, l'affliction sont dukkha. De façon plus générale, être uni avec ce qu'on n'aime pas, c'est dukkha. Être séparé de ce qu'on aime, c'est dukkha. Et ne pas obtenir ce qu'on désire, est dukkha. Donc on a un cadre assez clair. C'est vraiment tout ce qui produit de l'insatisfaction. Et ça, c'est le symptôme. C'est cette insatisfaction existentielle qu'on a tous, évidemment, un dosage plus ou moins important en fonction des moments. Et la cause de cette insatisfaction, c'est la deuxième vérité, deuxième noble vérité, c'est tanya. Tanya, c'est littéralement la soif. Donc, Ce qui cause cette insatisfaction et cette souffrance, c'est pas qu'on vive des choses difficiles, c'est qu'en réaction à quelque chose de désagréable, on a ce mouvement de réactivité, de rejet, de vouloir le chasser, et c'est ça qui est la cause de ce stress. Et en réaction à quelque chose d'agréable, on a la volonté de le garder. Et c'est ce qui est source de cette insatisfaction. Donc ce n'est pas ce qui nous arrive, c'est les fameuses flèches qu'on a évoquées dans le cours. C'est la réaction qu'on a à ce qui se passe dans notre vie et aux émotions qui nous passent par la tête. Ce n'est pas les événements ou les émotions elles-mêmes, c'est notre manière de les accueillir. Et cette tendance qu'on a à rejeter ce qui est désagréable et refuser que ce qui est agréable disparaissent parfois, ou qu'on le recherche de façon compulsive. Et ça, c'était un premier élément que j'ai trouvé intéressant, parce que on est très à l'aise avec l'idée que la réaction de rejet, par exemple de la colère ou de l'anxiété, face à quelque chose d'insatisfaisant, peut contribuer à ce que notre vie soit plus désagréable, plus difficile. La notion du désir, le désir est un mot connoté très, très positivement, par contre, dans notre culture. Et je vous propose de fermer les yeux. Ce ne sera pas long, ça peut être une position méditative ou pas. Je vais vous faire une petite liste de désirs possibles. J'aimerais que simplement vous preniez le temps de vous demander, pour chacun de ces désirs, si par moment, ils contribuent à des moments de mal-être pour vous, s'ils contribuent à aggraver la situation, s'il n'est parfois pas le bienvenu, finalement, ce désir. Surtout sur le long terme. Alors, allez, le premier, le désir de nourriture. Il y a des moments où pour vous, ce désir devient quelque chose qui contribue plus au mal-être qu'au bien-être. Naturellement, le désir d'alcool, le désir de cigarette, le désir de drogue ou de médicaments. Maintenant, on a traité les classiques. Mais, en gardant les yeux fermés, la suite est peut-être plus intéressante. Le désir d'achat. D'acheter quelque chose. Y compris par Internet. Le désir de sexe. Le désir de travail. Le désir de travailler. La chose qu'il vous faudrait finir. Le désir pour un écran, pour passer du temps devant un écran. Regarder des films, Facebook, tout le reste. Le désir de plus d'intensité dans votre vie, de plus d'intensité dans une relation, le désir d'avoir plus existentiel. Est-ce que parfois, il vous pose problème? Et en ouvrant les yeux, qui a estimé que par moment, au moins un de ces désirs n'était pas du tout de nature à contribuer au bien-être. Et pour moi, c'est un de ces domaines dans lesquels une philosophie qui est étrangère à notre société nous aide peut-être à saisir un problème qu'on a tendance à minimiser, même si dans le cas des dépendances, on a plein de petites catégories pour tous les problèmes que cet état-là peut causer, mais on a plutôt tendance à penser que c'est un manque de contrôle spécifique à une substance ou à une activité, plutôt que de remettre en question le rapport qu'on a au fait de désirer quelque chose, cette pulsion-là et cette soif. Et finalement, en tout cas dans ma propre expérience avec mes propres désirs, qui évidemment parfois sont complètement légitimes, hein, mais c'est le cas aussi pour la colère, le rejet, l'anxiété, pour toutes les émotions sont légitimes en elles-mêmes, mais par moments prennent un espace tel qu'elles nous posent problème. Dans mon expérience, le ressenti de ce désir est finalement assez proche, quel que soit l'objet. Enfin, ce n'est pas si différent que ça. Les gens qui ont des dépendances aux jeux en ligne ou à l'alcool. Et en ce moment, c'est vraiment une pathologie très, très, très à la mode, les addictions, surtout avec l'apparition d'Internet. Ça les a multipliés, donc c'est un problème. Et ce que j'en ai retiré, c'est cette volonté d'observer aussi cet état-là, de ne pas considérer que le problème quand je désire quelque chose, c'est juste que je ne l'obtiens pas assez vite, mais de systématiquement le questionner et d'observer ce que ça fait en moi quand il se manifeste. Parce que finalement, si on caricature ces deux directions de rejeter quelque chose de désagréable et de désirer quelque chose d'agréable, ça transforme un moment de relative satisfaction avec ce qu'on est et ce qu'on a en un moment d'insatisfaction, soit parce qu'on veut se débarrasser de quelque chose qui est là, soit parce qu'on aimerait plus que ce qui est déjà là pour être heureux. Donc le désir comme le rejet transforme de la satisfaction en insatisfaction, même si l'un comme l'autre ont leur place, encore une fois. Peut-être que si on a de la réticence à évoquer les aspects problématiques du désir, c'est parce qu'on s'est beaucoup battu contre notre passé extrêmement sévère envers tous les désirs et qu'on a eu envie de passer à quelque chose qui n'était plus culpabilisant. Mais peut-être que dans la foulée, on a perdu la capacité à le remettre en question comme état d'esprit, en tout cas en partie. Et là, il y avait une soirée sur ce sujet-là. Et dans le cadre de la formation que je prépare sur le rapport à l'alimentation, je pense qu'il y aura aussi des exercices spécifiques autour de l'observation de cette envie de quand elle se manifeste. Y compris dans la pratique méditative. Si, quand vous méditez, vous vous dites très souvent, mais ah, il faudrait que ma méditation soit plus intense, là je m'ennuie, ça manque de profondeur, ça manque d'intensité, j'aimerais revivre ce que j'ai vécu la semaine passée, voilà, à cette retraite où j'étais allé. C'est un bon moment pour pouvoir prendre du recul et dire, ah, oh, on dirait qu'il y a du désir, et à quoi ça ressemble? Est-ce que c'est satisfaisant? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça m'apporte quelque chose? Combien de temps ça va durer? Ça, c'était la deuxième noble vérité, donc que c'est cette réactivité qui est la source de cette insatisfaction. La troisième, pour rester dans le modèle médical, c'est la vérité de la cessation de la souffrance, donc qu'il y a moyen d'échapper à cette insatisfaction. Et le dernier, en toute logique, c'est le traitement. Donc la vérité du chemin vers la cessation de la souffrance, la prescription. Cette prescription se décompose, les bouddhistes adorent les listes, il y a les sept machins, les huit trucs, les douze, en huit éléments. Donc, ça s'appelle le noble chemin octuple. Et je ne vais pas aller dans le détail, mais il y a des éléments justement qui sont intéressants en chemin, donc je vais quand même prendre dans l'ordre, puisqu'il y a un ordre. Et que le premier point, c'est ce qu'on traduit par la juste compréhension ou la juste vision. C'est la vision du monde, de la réalité, de ce qui se passe en nous, qui favorise ce travail pour aller au-delà de l'insatisfaction. Et il y a plusieurs éléments, notamment simplement d'avoir conscience des quatre nobles vérités que je viens de mentionner. Donc ça fait partie de cette juste compréhension qu'il y a de l'insatisfaction, qu'elle est causée par la soif, par la réactivité, qu'il y a moyen d'aller au-delà de cette insatisfaction et que ce moyen, c'est le noble chemin octuple. C'est aussi dans le contexte bouddhiste une compréhension très générale ou plus fine du concept de karma, c'est-à-dire simplement que des actions, des intentions ont des conséquences. Et c'est plutôt là-dessus que j'aimerais m'arrêter. C'est aussi dans cette rubrique-là de juste compréhension qu'on inclut ce qu'on appelle les trois caractéristiques de l'existence, qui sont trois éléments, trois vérités sur ce qu'est l'existence humaine, dont il faut avoir conscience si on veut, selon ce modèle, espérer se libérer de l'insatisfaction. Et le premier, c'est justement dukkha, que la nature humaine, en fait, est sujette à la souffrance et à l'insatisfaction. À un niveau très concret, puisque vous vous souvenez de la liste tout à l'heure, naître, vieillir, être malade, mourir, être séparé de ce qu'on aime, être associé à ce qu'on n'aime pas, ne pas obtenir ce qu'on désire. Et là aussi, le désir, je pense qu'on a une réticence à l'envisager comme pouvant être problématique, même si on sait très bien que c'est le cas pour certaines personnes, dans certaines circonstances. Je pense que la conscience que l'existence humaine est sujette à pas mal de choses assez difficiles à vivre, on n'a souvent pas tellement envie d'y penser, notamment la mort, la maladie, la séparation avec ce qu'on aime. Et on sait en même temps que dans le cas de personnes qui, par exemple, sortent d'un moment difficile, d'un problème de santé grave, ou qui échappent de peu à une catastrophe, ou dont les enfants échappent à un accident, ces moments-là, chez les personnes qui les vivent, nourrissent généralement, pendant un certain temps, une plus grande capacité à profiter de leur vie telle qu'elle est, parce qu'ils prennent conscience d'à quel point leur vie telle qu'elle était, avec tout ce qu'elle avait d'imparfait, est précieuse, et à quel point il y a beaucoup de choses dont on peut profiter dans cette vie-là. Donc, chacun peut avoir son opinion. À quel point est-ce qu'il faut se réveiller tous les matins en pensant à la mort, à la maladie, à la séparation d'avec ce qu'on aime, à quel point ça va nous déprimer ou à quel point ça va nous permettre de ne pas nous énerver pour les choses mesquines dans le fil de la journée. C'est à chacun d'évaluer, mais là aussi, c'est clairement pas une prescription psychothérapeutique standard. Vous êtes malheureux, pensez à la mort, à la maladie, à la vieillesse, à la séparation avec ce que vous aimez, à l'association avec ce que vous n'aimez pas. Prenez conscience de ce dont vous pouvez être content et satisfait en ce moment. Et ça aussi, je trouve que c'est une prescription intéressante parce que je m'efforce de l'appliquer parce que je la trouve assez juste. Et je n'ai pas l'impression que ça me fasse du mal d'avoir tous les matins ce moment de réflexion qui pourrait paraître assez sombre. Je pense que ça rend aussi, ça rend précieux les choses que j'ai. Et ça me donne envie d'en profiter. La deuxième de ces trois caractéristiques de l'existence, au sein du premier point du noble chemin octuple, j'espère que vous suivez, c'est l'impermanence. L'impermanence que j'avais une fois essayé de résumer avec cette histoire du « ça aussi, ça va passer », du fait que les choses agréables comme les choses désagréables passent. Et que donc, si on pense qu'elles ne passent pas, on souffre davantage de ce qui est désagréable parce qu'on craint que ça reste là, et on profite moins de ce qui est agréable parce qu'on redoute que ça disparaisse. Donc, c'est cette conscience que toute chose passe. Tout passe. À un niveau général, c'est que les relations, que la santé, que la fortune, que la réputation a des hauts et des bas. À un niveau plus proche de l'aspect méditatif, c'est quand on est confronté à une émotion agréable ou une émotion désagréable, d'avoir conscience qu'elle va passer permet respectivement de pleinement savourer ce qui est agréable tant que c'est là, tant qu'on a cette joie qui monte, d'être avec elle, mais en sachant qu'elle va passer, et de relativiser beaucoup, évidemment, une émotion désagréable, parce que c'est une vague, et on sait qu'elle va monter et qu'elle va passer. On peut faire quelque chose avec notre attention, et ça, on en a assez parlé pendant qu'elle est là. Donc ça aussi, cette notion d'impermanence, la pratique est difficile, mais l'idée est excellente. Et je vous propose peut-être un exercice autour de cette notion d'impermanence, même si c'est très très ambitieux. Vous pouvez prendre une posture méditative. En tournant votre attention vers la respiration, d'une manière un peu particulière, en remarquant, en observant l'impermanence dans la respiration, c'est-à-dire vous sentez l'inspiration, mais vous remarquez surtout le moment où l'inspiration se termine pour laisser la place à l'expiration. Et en observant l'expiration, vous vous intéressez surtout à saisir le moment où l'expiration se terminera. Et en observant la pause, s'il y en a une entre deux respirations, vous vous intéressez surtout à saisir le moment où cette pause se terminera pour faire la place pour la prochaine inspiration. En ouvrant votre attention à tout ce qui se passe, les sons, les pensées, les sensations, les odeurs, les goûts, tout le paysage de votre expérience. Et là aussi, en vous intéressant avant tout à comment les choses apparaissent puis disparaissent, s'évanouissent. L'impermanence du passage de ce qui occupe votre attention au centre de votre attention. Peut-être une sensation qui laisse la place à un son. Un son qui laisse la place à une pensée. Alors, il n'y a pas l'espace pour faire une méditation sur l'impermanence, mais c'était seulement pour peut-être suggérer qu'il y a quelque chose de très pratique aussi au niveau expérientiel dans cette idée d'impermanence, et que si on s'intéresse aux transitions, au passage d'une chose à une autre dans notre esprit, c'est une autre manière, une autre perspective qu'on peut prendre sur notre expérience, y compris avec la respiration. Qui a observé une différence dans la manière de vivre ce tout petit moment méditatif avec cette perspective-là. C'est un gros mot philosophique, mais ça renvoie à quelque chose de très concret. Surtout dans une phase méditation ouverte, oui. Ah, c'était. Non, non, non. Non, mais surtout, on l'observe, je pense, s'il y a une phase dans la méditation où on a peut-être une plus grande sensibilité à cette notion d'impermanence, c'est quand on a cette attention ouverte à tout ce qui passe, parce qu'on remarque vraiment qu'une chose est remplacée par une autre. À l'instant, on était dans la conscience d'un genou un peu douloureux, et tout à coup, on est dans une pensée, et on peut remarquer cette transition, et le côté, le flux, en fait, de notre expérience. Alors, l'impermanence, dans la vie en général et dans la méditation, pour acquérir cette capacité finalement de recul, parce que si on pratique l'impermanence, c'est justement qu'on ne se laisse pas accrocher par l'envie de permanence de quelque chose d'agréable ou la peur de la permanence de quelque chose de désagréable, qui est souvent ce qui démarre les flèches, typiquement par rapport à une douleur physique que vous avez dans le corps. Souvent, c'est la peur qu'elle reste là et qu'elle s'aggrave qui finit par la rendre insupportable. C'est le doute sur la place qu'elle va prendre. Sur le long terme. Dukkha, donc souffrance, impermanence, c'est la troisième caractéristique de l'existence qui est la favorite des académiques. C'est le non-soi qui se dit en pali anatta. Ah, il y a beaucoup de gens qui se la pètent autour du non-soi. Bah, c'est un sujet, évidemment, ça semble profond, rien que de le dire. Et j'ai eu un peu de peine avec ce concept, donc moi je le prends un peu au ras des pâquerettes, parce que c'est le niveau que je comprends et qui me parle. Mais il y a quand même plusieurs niveaux. Mais à un niveau vraiment commun, ça peut simplement renvoyer à cette fabrication, à cette promotion et cette défense de soi-même qui nous pose un certain nombre de problèmes. Ce surinvestissement dans qui on est et dans ce que les gens pensent de nous. Maintenant, on parle aussi de prendre les choses personnellement, c'est-à-dire comment quelque chose que quelqu'un dit parce qu'on estime que ça nous vise, nous, on en fait un problème. Donc, cette tendance qu'on peut avoir à être très attaché à la promotion et à la défense de quelque chose qui s'appelle moi et qui contribue souvent à des moments de tension. C'est aussi une espèce de barrière, si on y réfléchit, une barrière entre nous et les autres. C'est aussi le reflet de notre difficulté à avoir du plaisir quand l'équipe adverse de celle qu'on soutenait a gagné un match, ou quand Djokovic a gagné contre notre Federer en ayant très bien joué. C'est aussi une manifestation de ce moi, mon, mien. Dans un sutta, il y a une phrase qui résume une prescription autour de ce non-soi, c'est « Il ne faut s'attacher à rien comme étant je, moi ou mien », si on veut aspirer à un bonheur durable. Alors, pour explorer ce non-soi au niveau mondain, je vous propose de fermer les yeux brièvement. Je risque de dépasser un peu le temps que j'avais prévu, je m'excuse. Si quelqu'un doit partir, c'est l'heure. À 21h15. Et imaginez que vous aimez beaucoup a commis une erreur, blessé quelqu'un sans le vouloir, en disant quelque chose que cette personne a regretté aussitôt après, ou commis une grosse erreur sur le plan professionnel. Envoyer un email à la mauvaise personne. Cette personne que vous appréciez beaucoup a blessé quelqu'un, a commis une erreur et est absolument catastrophée. Et elle vient vers vous, elle vous raconte ce qui s'est passé. Imaginez le visage d'une personne que vous appréciez. Qu'est-ce que vous lui dites? Ok, maintenant c'est vous qui avez commis une erreur, blessé quelqu'un, en disant quelque chose que vous avez regretté aussitôt, envoyé ce fameux email, fait une immense bévue. Qu'est-ce que vous vous dites? Vous pouvez ouvrir les yeux. Et il y a ce rapport entre soi-même et autrui. Il y a aussi, dans toute cette, par exemple, le fait que si je suis dans un parc où jouent beaucoup d'enfants, dont ma fille, je ne profiterai pas autant de la joie des autres enfants que je vois jouer que de celle de ma fille. Il y a toute cette notion de barrières qu'on trace autour de ce qui est à soi, hein, et qui limite nos capacités à nous réjouir, ou nos capacités aussi à la compassion, parce qu'on sait très bien aussi, même à un niveau national, qu'on est plus ému souvent par la détresse de personnes qui nous sont d'une manière ou d'une autre plus proches. Ça, c'est une manière peut-être très générale d'envisager ce que peut être le non-soi. C'est un allègement du soi, c'est pas nécessairement une espèce de néant. Et à un niveau plus méditatif, vous pouvez aussi l'observer dans votre rapport, par exemple, à une douleur physique. À un moment, et parfois on le remarque, dans le champ de l'attention, il y a une douleur intense quelque part dans le corps. Et l'instant d'après, c'est vous qui avez mal. Il y a le passage de quelque chose que vous remarquez, et méditativement, on peut parfois rester avec simplement cette sensation qui est quelque part, qui a certaines caractéristiques, qui est plus ou moins intense, on est presque observateur de ce qui se passe dans le corps. Et tout à coup, on se dit, mais j'ai mal, c'est ma douleur, c'est mon problème. Et la réaction de peur ou de colère, elle vient aussi au moment où ça cesse d'être quelque chose qu'on observe et où ça devient quelque chose qui nous nuit à nous en tant que personne, qui nuit à notre intégrité corporelle.
Deux mots, douleur et souffrance.
C'est exactement.
La douleur et qui est douleur. Et puis si on met dessus le soin,
ça devient de la souffrance. Et même la douleur, et là on parle vraiment de méditation, quand on médite, parfois la douleur peut devenir un truc qu'on n'appellerait pas douleur, qu'on appellerait sensation très présente, localisée, à cet endroit-là, qui fait à peu près ça. Mais parfois, la notion même de douleur est mise entre parenthèses. Et c'est évidemment à chaque fois une personnalisation un peu plus grande qui fait que ça devient notre douleur et notre problème. Mais ça reste... on peut aller encore un peu au-delà, parce que, et ça c'est la perspective bouddhiste, la conscience de soi se fabrique. Elle n'est pas forcément continue. L'idée qu'il y a un moi, elle n'est pas toujours présente. Et si vous méditez, peut-être que par moment, vous aurez remarqué que parfois, il y a juste la respiration. Vous avez l'impression que vous êtes seulement avec la respiration et qu'il n'y a pas forcément la conscience de qui vous êtes en train de méditer sur la respiration. Il y a votre attention qui est avec la respiration, et pendant quelques instants ou pendant quelques respirations, il n'y a que ça. Et puis après, ça redevient un je qui est en train d'observer la respiration. Qui se reconnaît un peu, mais j'essaie de décrire ça. C'est quelque chose qui peut arriver. Et je vous propose un exercice, alors là, super abstrait. Mais on va essayer. Vous pouvez fermer les yeux. Super abstrait, super rapide, parce que je vais essayer d'aller vite. En prenant conscience de votre respiration, maintenant, en vous posant la question, est-ce qu'il n'y a que la respiration? Ou est-ce qu'il y a, vous avez conscience que vous êtes en train d'observer la respiration? Et si il y a la respiration, mais aussi la conscience que vous êtes en train de l'observer, à quoi est-ce que vous remarquez que vous êtes en train de l'observer? Comment sentez-vous ce vous? Comment est-ce qu'il se manifeste? Est-ce que c'est une idée? Est-ce que c'est une sensation? La conscience d'une partie du corps? Qu'est-ce que c'est? Où est ce vous en ce moment? Vous pouvez ouvrir les yeux, c'est quelque chose que vous pouvez réessayer chez vous. Qui a eu une réponse à la question « Où est-ce vous ?» Comment est-ce que vous savez que c'est vous? Ouais. C'était quoi? Une conscience de cette partie-là du corps, en fait. Oui, hein? Quelqu'un se reconnaît là-dedans?
Au début, c'est ça, puis après ça.
Pour certaines personnes, c'est une conscience de la tête, comme si on se mettait là. Et donc, on sait qu'on est là, en train d'observer la respiration, parce qu'on a conscience de notre tête. Pour d'autres, c'est le regard. C'est-à-dire que vous regardez quelque chose, les paupières fermées, naturellement, et c'est parce que vous êtes en train de regarder quelque chose que vous avez ce sentiment de ne pas être juste une attention qui observe une respiration, mais vous-même en train de le faire. Et quel est l'intérêt de chercher la présence de ce soi et de voir si on le fabrique, c'est peut-être simplement d'aller par moments dans les méditations vers quelque chose d'encore plus léger, hein, en remarquant le moment où cette fabrication de moi intervient. C'est très bien qu'elle soit là, on n'aspire pas nécessairement à ne plus être soi, mais dans une méditation, si on remarque les moments où tout à coup on repense qu'on est nous-mêmes en train de méditer, on peut aussi plus facilement prendre du recul par rapport à ces moments-là, peut-être choisir de rester plus longtemps avec l'objet de méditation, purement avec l'objet de méditation, et aussi remarquer ce que ces moments-là jouent dans les moments de frustration, de satisfaction avec la méditation, les moments où vous vous dites « cette méditation se passe bien » ou « elle ne se passe pas bien », c'est les moments où, vous êtes, où la notion de soi elle est très 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 présente. Donc vous pouvez aussi peut-être gagner en souplesse par rapport à la manière dont vous vivez ces moments-là, en vous posant la question d'où est ce soi. Je vais aller vite parce que ça va vite la suite. En fait, les points 2, 3, 4 et 5 du noble chemin octuple, ça a trait à ce qu'on appellerait l'éthique, ou la morale. Donc, il y a la juste intention qui dit simplement que plus on pense dans une direction bienveillante, compassionnelle et détachée du besoin de satisfaction immédiate, sensorielle, plus on est heureux. Et que en multipliant les pensées qui vont dans le sens de la bienveillance, de la compassion, on se rend plus heureux, et en prenant conscience des pensées qui ne sont pas bienveillantes, qui ne sont pas compassionnelles, et en diminuant leur impact sur notre bien-être, on cultive un bonheur durable. Donc c'est cette idée que nos pensées nous rendent plus ou moins heureux, et que certaines pensées ont un statut spécial par rapport à ça. Notamment le fait de se vouloir du bien ou de vouloir du bien à autrui, hein, de faire preuve de compassion, c'est-à-dire de vouloir que ça aille mieux quand ça va mal pour soi-même ou pour autrui, que d'avoir ces pensées régulièrement nous fait du bien. Et c'est ce qu'on disait finalement tout à l'heure, que sur la durée, cultiver certaines, encourager certaines pensées plutôt que d'autres va nous faire du bien. Il y a une phrase que je trouve très jolie et qui est très psychothérapie TCC dans la philosophie bouddhiste. « Ce que l'on prend fréquemment en considération devient la nature de l'esprit. » À force de prendre fréquemment quelque chose en considération, à force de pratiquer régulièrement la bienveillance devient la nature de l'esprit. Ce qui n'est pas du tout abstrait et incompatible avec notre vision des choses. Ça, c'est au niveau des pensées. Ensuite, il y a la juste parole, ne pas mentir, ne pas pratiquer les commérages, la violence verbale, ou éviter le « small talk ». la juste action, ne pas tuer, voler, ne pas prendre de drogue, ne pas tromper, violer, des choses qui font partie de tous les codes moraux de toutes les religions. Et le juste mode de vie, c'est-à-dire ne pas vendre des armes, par exemple, ou des poisons. Donc, que le métier qu'on a choisi d'exercer ne cause pas de mal. Et ce qui est intéressant par rapport à... C'est rien de nouveau pour nous, en fait. Mais dans le cadre de ce noble chemin octuple, c'est envisagé comme un moyen d'être plus heureux. Parce que les conséquences de ces actions morales sont qu'on est plus heureux. C'est-à-dire quand vous faites une bonne action, quand vous êtes généreux, ou quand vous dites la vérité alors que c'est difficile de la dire, vous vous sentez bien. Et que les conséquences, évidemment, des mauvaises pensées, actions, moyens de vie, paroles, sont du stress supplémentaire. Si on ment, on a peur d'être découvert. Si on parle durement, on le regrette. Ou la personne à qui on a parlé durement nous en veut et nous le fait payer. Donc c'est une perspective différente de celle qu'on a quand on se pose sur le plan moral, où on a l'habitude de mettre la moralité en rapport avec la société ou la vie après la mort et les conséquences de nos actions au-delà de la mort. Et on n'a pas forcément, si vous allez encore une fois voir un psychothérapeute puis que vous lui dites ça ne va pas très fort, il ne vous dira probablement pas, alors essayez de dire plus souvent la vérité. Vous trompiez votre mari, votre femme, il fallait que vous arrêtiez. Vous travaillez pour un gros vendeur d'armes, ce serait mieux que vous changiez de direction professionnelle. C'est pas quelque chose qu'on associe du tout à la recherche du bonheur, alors qu'en même temps, ça semble assez évident qu'à un certain point, c'est lié. Que la morale et l'éthique soient liées au bonheur. Donc ça, c'est une idée de détacher un petit peu la morale du cadre habituel dans lequel on la place, et de simplement se poser la question, quelles sont les conséquences pour moi si j'encourage ces actions, ces paroles, ces pensées-là, ce mode de vie-là, au niveau de mon propre bien-être. Et les trois derniers sont la juste attention, la juste pleine conscience, sati, mindfulness, et la juste concentration, qui ont tous trait à la pratique méditative, et que j'ai déjà couvert largement dans la dernière soirée, et qui s'est un peu couvert dans le cours aussi, ces aspects-là. Il y a une image très jolie dans la philosophie bouddhiste où les idées, le savoir est comparé à un radeau de feuilles et de branches. On peut fabriquer un radeau parce qu'on voit qu'il y a un cours d'eau très difficile à traverser, et à l'aide du radeau, on le traverse. Mais ce serait extraordinairement stupide par la suite de se dire « Ah, ce radeau qui m'a aidé à traverser la rivière, je vais le garder tout le temps sur mon dos à partir de maintenant, toute ma vie. » Et c'est un peu comme ça que je prends cette philosophie bouddhiste, c'est que je n'ai pas l'intention de devenir bouddhiste. Et plus je vieillis, plus j'en suis certain. Mais ces idées-là permettent par moment de traverser des rivières, et après on les laisse. C'est pas nos idées, et il n'y a pas besoin que ça devienne nos idées, mais ça peut nous aider à aborder quelque chose différemment. Ça peut être enrichissant de ce point de vue-là.